Le grand magazine du samedi, midi, 18h. Reportage VIP, 13h, 14h.
Dans Reportage VIP et plus globalement chez RVVS, on a accueilli le projet avec passion, avec joie.
Moi j'ai toujours laissé ma porte ouverte et j'ai toujours dit que dès qu'il y aurait un projet sport handicap, je le suivrais.
Bonjour Jonathan.
Oui bonjour.
Parlez-nous-en.
Donc j'essaye de monter dans la commune des Mureaux un club de basket handisport. Dans l'équipe que j'essaye de mettre en place, les filles peuvent aussi jouer avec nous, il n'y a aucun problème. Et il peut y avoir un quota de 3 valides. Donc si par exemple il y a des personnes en situation de handicap ou des valides filles ou garçons qui veulent venir jouer dans la limite des 3 places disponibles, qui n'hésitent pas à me contacter, il n'y a aucun souci, je serais ravi de les accueillir dans l'équipe.
Un numéro de téléphone?
C'est le 06 50 59 90 51.
Bonjour à tous, vous écoutez Reportage VIP comme tous les samedis de 13 à 14h sur RVVS 96.2 FM, sur internet au www.rvvs.fr, sans oublier la page Facebook de la radio. Un petit bonjour à Florent qui est à la régie aujourd'hui.
Et oui, bonjour, il est 13h passé de 2 minutes sur toute la France, 96.2 FM. C'est sur Reportage VIP, c'est maintenant l'émission Reportage VIP sur 96.9 FM, le www.rvvs.fr et le www.vipradioonline.fr. Bonjour Jean-Louis et Wes.
Bonjour.
Cette semaine,
effectivement, nous aurons une émission thématique puisque nous recevons une alliance et une association. Alors nous recevons l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme avec qui nous parlerons de la création de l'alliance. Des services qui sont apportés en termes de protection des droits humains, puisqu'il sera question de ça aujourd'hui. Quelles ont été aussi les motivations de cette création et notamment les moyens de contact avec le public. Puis nous parlerons ensuite de Survival International France, toujours avec une présentation de l'association, les différents moyens d'action de cette association et notamment dans la lutte pour les droits des peuples autochtones. Donc pour en parler, nous avons avec nous Noan Tennesson, secrétaire général de l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également avec nous Jean-Patrick Razeau, le cofondateur de Survival International France. Bonjour. Alors nous allons tout de suite partir avec l'Alliance, avec Florent pour la première question.
Voilà, l'Alliance des avocats des droits de l'homme. Pour les droits de l'homme, comment est née cette structure récente, Noan?
Alors, cette structure, en fait, est une association loi 1901 que j'ai cofondée en mai 2009, donc il y a un peu plus de 5 ans, avec le soutien de l'Ordre du Barreau de Paris et notamment le bâtonnier de l'époque, qui est un fervent défenseur des droits de l'homme, qui s'appelle Christian Charrière-Bournazel. Et puis avec le soutien aussi de notre ancien ambassadeur pour les droits de l'homme auprès du ministère des Affaires étrangères, qui est un avocat également et qui s'appelle François Zimret.
C'est à la base une rencontre?
Voilà, en fait, moi, je travaillais dans un cabinet, un grand cabinet français qui s'appelle Janté et Associés. Et François Zimret était associé dans ce cabinet. Et j'ai quitté la profession d'avocat, j'ai voulu travailler pour la protection des droits de l'enfant. Et quand il est devenu ambassadeur, je l'ai rencontré pour lui demander conseil. Et il m'a dit qu'il avait une idée, c'était de rassembler tous les avocats qui voulaient œuvrer pour la défense des droits de l'homme et des droits de l'enfant.
L'AADH apporte des services juridiques gratuits et confidentiels auprès des ONG, des associations, institutions dédiées à la protection des droits de l'homme, qu'elle soit nationale ou internationale. Sur quelles questions en matière de protection des droits de l'homme peut-on contacter l'AADH?
Alors en fait, pour toute violation des droits de l'homme, mais à partir du moment où le contact se fait par une ONG, c'est-à-dire qu'on n'assiste pas les personnes physiques, parce que ça appartient au barreau de Paris, et notamment à l'accès aux droits et à l'aide juridictionnelle. Mais à partir du moment où vous êtes une ONG, une association de protection des droits de l'enfant ou des droits de l'homme, que vous avez été agréé par notre conseil d'administration sur des critères assez objectifs de transparence. Vous pourrez demander n'importe quelle consultation juridique à nos cabinets membres. Nous avons 18 cabinets membres et avec à peu près plus de 15 000 avocats à travers le monde.
Comment la ADH sélectionne si l'accompagnement juridique peut être apporté?
Alors, à partir du moment où c'est du véritable pro bono, c'est-à-dire que on considère qu'il y a un manque de moyens financiers évident des ONG pour pouvoir s'offrir les honoraires des avocats.
Et vous apportez également votre soutien dans le cadre de formations qui sont proposées par un avocat, en collaboration aussi avec le Quai d'Orsay. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces formations ?
Oui, on a mis en place ces formations il y a à peu près 3 ans, c'est-à-dire qu'en fait, on offre, c'est une formation qui s'adresse à tous les consuls et les diplomates, une formation qui a lieu effectivement au Quai d'Orsay et qui porte sur des thématiques droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on essaie de donner aux diplomates et aux consuls les clés juridiques de protection de leurs ressortissants mis à mal à l'étranger. Donc ça peut porter par exemple sur qu'est-ce que la détention arbitraire, qu'est-ce qu'un procès équitable, et ce sont des formations extrêmement pointues où nous avons des avocats spécialisés en droit pénal international qui ont une grande expérience de terrain et qui sont à même de pouvoir répondre aux questions des diplomates et des consuls qui rencontrent des difficultés sur les terrains.
Quelles ont été les motivations pour créer la ADH ?
Alors les motivations, c'est qu'il y a une absence de professionnalisme, je dis ça en toute humilité, mais il y a une absence de professionnalisme de certaines ONG françaises qui n'ont pas les moyens effectivement de s'offrir des avocats. Et c'est parti un peu de l'expérience de l'Arche de Zoé, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. C'était une association qui a eu des déboires juridiques qui s'occupait d'enfants à l'étranger, et on s'est rendu compte qu'il fallait absolument professionnaliser le monde associatif, parce qu'on est dans un monde qui ne laisse pas place à l'amateurisme.
Et à travers ce soutien, ça permet aux ONG, aux associations de se concentrer sur leur cœur de métier.
Tout à fait. Et puis, sachez aussi que, évidemment, ça renforce leur combat par la plus forte des armes qui est le droit.
Et il y a également la capacité des avocats à donner une véritable dimension humaine à leur exercice, à leur fonction.
Oui.
Aussi, c'est important.
Tout à fait. Les avocats, en fait, s'investissent parce que certains ont un peu oublié le cœur de leur métier, c'est-à-dire effectivement aider les autres et puis la protection des droits de l'homme. Et tout avocat est par définition un défenseur des droits de l'homme. Mais quand certains se concentrent sur des fusions et acquisitions toute la journée, ils oublient un peu ce que c'est que le métier d'avocat. Donc c'est renouer avec les valeurs de notre profession.
Pouvez-vous nous citer deux exemples de dossiers sur lesquels la ADH a œuvré par le passé ?
Alors on avait un dossier, moi, qui m'a particulièrement sensibilisée, c'était des familles birmanes qui fuyaient la Birmanie pour aller en Malaisie. En Malaisie, en fait, ils étaient détenus pendant plusieurs mois parce que en Malaisie, il y a un corps de civils volontaires qui est payé à la commission pour toute personne attrapée. Donc, vous pouvez comprendre la virulence qu'il y a là-bas. Donc, ces familles étaient détenues. Soit elles pouvaient payer des cautions, ce qui n'était jamais le cas. Lorsqu'elles ne pouvaient pas payer de caution, elles étaient transportées à la frontière Malaisie-Thaïlande, vendues à des trafiquants d'esclaves. Et les enfants, notamment, étaient enrôlés dans les bateaux de pêche parce qu'il faut pouvoir avoir une maîtrise sur les individus sur les bateaux de pêche, qui sont quand même des milieux extrêmement fermés. Donc les enfants, c'est beaucoup plus facile. Et les enfants étaient tués à la fin de la saison de la pêche. Et donc, alors je vous passe toutes les conditions de détention, les conditions de violence lors de ces déportations. Et nous, par exemple, on nous a demandé quels étaient les moyens juridiques pour contrer contre l'importation des produits de la pêche en France et dans le monde entier. Voilà, donc on a eu une analyse. Comme on a beaucoup d'avocats d'affaires, ce qui peut paraître un paradoxe pour certains, que des avocats d'affaires travaillent dans les violations des droits de l'homme et des droits de l'enfant, mais ce n'est pas du tout un paradoxe parce que justement, ces avocats d'affaires ont une plus-value dans le sens où ils ont une analyse économique des situations. Et dans toute violation des droits de l'homme, il y a une chaîne de production. Et donc cette analyse économique, notamment au regard des conventions internationales ou des traités sur le commerce international, est particulièrement intéressante et vient compléter l'analyse plus traditionnelle des conventions sur les droits de l'enfant.
J'avais également un autre exemple. Si une ONG vous avait contacté apparemment pour vérifier s'il y avait une réglementation particulière au sein de l'Union européenne qui aurait pu interdire à une société de télécommunications de vendre à des régimes dictatoriaux.
Nous avons eu le cas, effectivement. On nous a posé la question et nous avons fait une analyse, et notamment une analyse aussi de droit comparé, une analyse au niveau international pour savoir comment on pouvait lutter contre ces sociétés qui exportent des technologies sensibles à des pays dits répressifs. Donc, je ne peux pas donner les noms des sociétés parce que je suis soumise à la confidentialité en tant qu'avocate. Mais ça viendra à l'esprit de chacun. Les sociétés sont suffisamment dénoncées par la presse.
Mais ces deux exemples montrent que ça atteint des champs assez larges au final.
Et c'est très large, effectivement. Comme on a ces 15 000 avocats dans le monde, on a une force de frappe énorme. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à des études de droit comparées très rapidement et à des études de droit qui sont de qualité. Et puis, on a des avocats franco-français aussi qui vont répondre à toutes les problématiques juridiques auxquelles sont confrontées les associations. Donc, ce n'est pas uniquement le terrain des violations de droits de l'homme, droits de l'enfant, mais c'est aussi le terrain de ce qu'on appelle la gouvernance associative, c'est-à-dire une association, par exemple, veut savoir si elle peut bénéficier d'un reçu fiscal ou si elle se transformer et obtenir la reconnaissance d'utilité publique, ou comment obtenir des fonds, ou comment employer un personnel à l'étranger. C'est tout ce type de questions, toutes questions juridiques en fait.
Et on voit que ça a une vraie incidence sur le terrain en plus.
Ça a une incidence énorme sur le terrain, c'est-à-dire qu'on est vraiment une aide, enfin là aussi en toute humilité, mais je pense qu'on apporte une aide précieuse aux ONG.
Noan, vous avez également étudié la psychologie de l'enfant. Est-ce complémentaire pour pouvoir soutenir au mieux les droits de l'enfant, parfois?
Je pense qu'il est indispensable pour s'occuper d'enfants d'avoir suivi des cours de psychologie. Les enfants en souffrance, ce sont des enfants dans des cas très particuliers qui dépassent notre entendement classique et rationnel. Et donc, il faut pouvoir avoir une compréhension qui soit un peu plus global et plus spécialisé pour pouvoir répondre au mieux aux attentes de ces enfants.
Et les droits de l'enfant en France, quelle est la situation actuelle?
Alors, les droits de l'enfant, alors je ne suis pas spécialisée dans les droits de l'enfant, malheureusement, puisque je me concentre sur l'Alliance. Je crois que la situation des droits de l'enfant est pas extraordinaire, et notamment, c'est ce qu'on voit aussi au travers de la presse, avec la prostitution des mineurs, la traite d'enfants aussi, qui est assez importante. Et il y a une mauvaise... il y a un mauvais système qui est établi en France et qui ne permet pas une défense des droits de l'enfant. C'est-à-dire que nous, on a fait notamment un partenariat avec des associations de protection de l'enfance où on va assister et représenter en justice les ONG et les enfants lorsqu'ils sont victimes de viols, de trafic, de prostitution. Et on se rend compte que dans ces procédures, dans ces procès, où il y a souvent des viols d'enfants, en face, il y a des personnages qui ont des réseaux d'influence énormes, qui ont énormément d'argent et qui peuvent avoir de très très bons avocats, alors que les associations n'ont pas les moyens d'avoir des bons avocats. Donc on leur fournit justement des avocats, des ténors du barreau de Paris pour les aider, pour essayer d'avoir une justice un peu plus équitable.
Et à travers ces exemples, ça aide encore plus à soutenir les droits de l'enfant, je suppose.
Oui, bien sûr. Oui. Pour nous, c'est une des actions, enfin en tout cas pour moi, c'est une des actions les plus importantes dans l'Alliance, c'est effectivement de pouvoir assister les enfants en justice.
Et de manière générale, justement, avez-vous décelé une évolution quant à la protection des droits humains en France ou même à l'international?
En en étant très honnête, je n'ai pas décelé vraiment d'évolution. Il y a des violations à travers le monde et c'est très très difficile, mais je pense qu'il faut rester optimiste et que chaque petite goutte d'eau que chacun met pour la défense des droits de l'homme, ça permettra une avancée qui prendra du temps, mais ça permettra une avancée.
Et justement, par rapport à la loi, est-ce qu'il y aurait eu des nouvelles jurisprudences ou lois, justement, notamment par le biais de vos actions ?
Alors, nous essayons effectivement d'intervenir sur, notamment sur la protection des biens culturels des peuples Hopi. Et là, je laisserai la parole à Jean-Patrick Razon qui pourra vous en parler.
Tu
veux en parler ?
Vous voulez que je parle maintenant ?
Si possible.
Non, si possible. Bon, ce qui est très intéressant dans l'histoire des Hopi, en fait, les Indiens Hopi qui vivent en Arizona nous ont contacté l'an dernier pour nous demander d'essayer d'interdire une vente aux enchères d'objets sacrés qu'ils voulaient récupérer et dont ils n'avaient absolument pas envie qu'ils soient dispersés dans le monde parce qu'ils considèrent que ces objets sont une partie d'eux-mêmes et ne sont pas des objets commerciaux. Et en fait, on a fait appel donc à la DH qui nous a envoyé un avocat qui n'était pas du tout spécialiste de ces questions mais qui s'est vraiment engagé dans cette histoire d'une manière extrêmement généreuse puisque ayant perdu devant le tribunal le fait de pouvoir interdire la vente, il a acheté lui-même un de ces objets qu'il a restitué aux Indiens Hopi dans une cérémonie très émouvante l'an dernier, en juillet dernier. Il y a eu deux autres ventes par la suite et le conseiller culturel de l'ambassade des États-Unis s'est impliqué dans cette histoire et a fait venir en France une juge indienne Hopi, spécialiste de la protection des biens culturels, pour qu'elle puisse rencontrer des commissaires-priseurs, essayer de les sensibiliser à ce problème. Et à la suite de ça, nous avons pu rencontrer Madame Taubira, garde des Sceaux, qui a promis de préparer une loi contre la vente de tels objets. Et l'AADH, donc l'avocat de l'AADH, a préparé cette loi ainsi qu'un traité entre les États-Unis et la France pour sauvegarder les biens culturels des Indiens nord-américains. Voilà, c'est un exemple de passage à l'acte, si vous voulez, de réalisation de ce que peut faire l'AADH, non, avec ouais, une association. Mais non.
Et puis, pour ajouter quelque chose, on a lancé une campagne pour la protection des biens culturels des Indiens. On l'a lancée en septembre et on essaye d'éveiller les consciences françaises sur la valeur sacrée de certains objets pour les tribus indiennes et pour l'importance de ces objets sacrés culturels qui permettent en fait la survie de ces peuples. C'est-à-dire que notamment dans le cadre des Hopi, les masques, ce sont des katsinas, ça représente des personnes humaines et ces katsinas permettent de rentrer en communication avec les défunts. Donc pour le peuple Hopi, c'est essentiel et il en va vraiment de leur survie. Donc on essaie de faire bouger les choses avec nos propres moyens et de faire bouger la réglementation.
Et certains masques sont exposés même en musée, en plus.
Oui.
En fait, beaucoup de ces masques ont été acquis d'une manière plus ou moins illégale. Et à une époque où il était au plus ou moins permis d'acquérir ce genre de choses. Mais aux États-Unis, il y a depuis quelques années une loi qui interdit la commercialisation de tels objets. Et aucune loi de ce type n'existe en France. Et c'est ce que nous essayons de faire grâce à l'AADH, c'est de faire en sorte qu'une loi puisse être mise en place ici en France pour essayer d'interdire la commercialisation de tels objets. Mais il se trouve que effectivement, il y a aujourd'hui de tels pièges dans les musées, mais les Hopi considèrent, par exemple, je vous donne un exemple, les Hopi considèrent que ces objets qui sont depuis si longtemps dans les musées n'ont plus ce pouvoir et cette même valeur qu'ils accordent aujourd'hui à des masques plus récents. Ils disent qu'ils ont été souillés, ils ont été pollués par l'Occident, donc ils n'ont pas... Pour certains, ils n'ont plus envie de les récupérer.
C'est s'approprier la culture d'un peuple en faisant de tels agissements.
C'est l'idée du musée, hein. C'est s'approprier la culture de tous les peuples pour les présenter à la nation. Je crois que c'est ça l'idée du musée.
Mais en ayant une méconnaissance aussi complète de ces cultures. Parce que quand on met des katsinas, qu'on prend des photos ou qu'on les expose au public, c'est méconnaître la valeur des katsinas. Jean-Patrick,
oui, pense, oui, tout à fait, oui.
L'AADH a également travaillé avec Survival International France pour savoir si rallier d'une manière administrative Survival International France au siège de Londres ou non, est-ce qu'il fallait le faire ou pas ? Ça a été l'objet d'une étude également.
Oui, ça a été l'objet d'un des nombreux cas qu'on a soumis à l'AADH. En fait, il était question de... l'affaire, c'était que nous voulions être beaucoup plus... transformer notre association loi 1901 en une association particulière qui serait rattachée à ce qu'on appelle en Angleterre la charity, qui est le siège de notre organisation. Et en fait, un cabinet d'avocats a travaillé très longuement et d'une manière extrêmement complète sur ce cas, nous a présenté diverses propositions et aucune n'a retenu vraiment notre choix et nous sommes restés tels que nous sommes. Mais ils n'ont pas travaillé pour rien parce que ça nous a montrer qu'il fallait qu'on reste tel que nous étions.
Alors, l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme communique chaque semestre par le biais d'une newsletter. Et là, on voit aussi l'importance de la communication des actions auprès du public.
Oui, c'est essentiel la communication, surtout dans notre monde. On communique, on a d'abord un site que vous pouvez retrouver, c'est www.aadh.fr et on a mis en place des newsletters tous les 6 mois parce qu'en fait on a très peu de moyens au sein de l'Alliance, donc ce sont des bénévoles qui travaillent sur ces newsletters et on a fait une newsletter notamment sur la protection des biens culturels. Là, il y en a une qui va sortir, qui va être sur les enfants soldats, et voilà, sur différentes thématiques. Et puis, on essaye de faire aussi des fiches sur les Indiens qu'on distribue dans la rue, qu'on distribue par mail, des fiches sur les différents acteurs dans cette campagne justement pour la protection des biens culturels des Indiens, c'est-à-dire des fiches sur la position des musées, la position des collectionneurs. Parce qu'on est une association d'avocats et donc il y a un principe de neutralité. On n'est pas une association d'activistes, mais donc on se doit de garder cette neutralité parce qu'on est juste des activistes, entre guillemets, du droit. Voilà. Mais la communication est vraiment essentielle.
Merci Noan, merci Jean-Patrick. Tout de suite, dans Reportage VIP sur RES 96.2 FM, nous allons écouter Genesis, Tell Me Why. Puis ensuite, on revient avec vous pour la présentation de Survival International France. Et oui, bonjour, vous êtes bien sur RVVS 96.2FM, sur www.rvvs.fr et le www.vipradioonline.fr pour la web radio de Reportage VIP. Nous sommes avec Noane Tennesson et pour l'AADH, qui est l'Alliance pour les droits de l'homme, et Jean-Patrick Razon pour Survival International France, une thématique luttée contre tout ce qui peut se faire autour de l'appropriation des biens culturels indiens. On défend cette action. Et maintenant, on va présenter l'association Survival International. Bonjour Jean-Patrick.
Bonjour.
Cette association est née en Angleterre, Survival International, en 1969, en Grande-Bretagne donc, en réaction à un article dans le The Sunday Times dénonçant les massacres, vols de terre et génocides en Amazonie brésilienne. Comment vous, responsable de la section française depuis 1981, comment s'est fait cette section justement ?
Je peux en dire un petit peu plus sur la création de l'organisation. À la fin des années 60, le Brésil connaissait une espèce de croissance économique où on découvrait des ressources naturelles impossibles dans des territoires extrêmement reculés, notamment en Amazonie. Et on découvrait de l'or, des diamants, des minerais, du pétrole, du bois, etc. Mais sur ces territoires reculés vivaient des Indiens. Et pour exploiter ces territoires, il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était d'éliminer les gens qui s'y trouvaient. Et on les a éliminés d'une manière assez atroce, avec des couvertures empoisonnées, on leur a inoculé des maladies, on les a tués avec des armes, etc. Et cette situation a inquiété un certain groupe d'Anglais du Royal Institute, Geographical Institute, et une enquête a été dépêchée au Brésil, composée d'un journaliste du Times Magazine, d'explorateurs, de géographes, d'anthropologues. Et à leur retour, le journaliste en question a publié dans Times Magazine un article qui s'intitulait « Génocide ». Et génocide, c'était la première fois qu'on employait ce terme en 1969, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, il s'agissait d'un véritable génocide. On avait anéanti des tribus entières. Et ce groupe de gens, dont Edward Goldsmith, qui plus tard a créé d'autres choses que tout le monde connaît, a décidé de fonder une organisation sur le modèle d'Amnesty International, qui était née quelques années auparavant et qui aurait pour but de défendre les Indiens en utilisant l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il n'était absolument pas question d'aller faire du développement, de leur apporter de l'argent ou des biens matériels, mais de faire pression sur les gouvernements et les entreprises qui bafouaient leurs droits pour obtenir gain de cause. Et en fait, depuis 1969, l'organisation ne fait que mobiliser l'opinion publique à la demande des autochtones pour faire valoir leurs droits. Elle a commencé donc au Brésil et puis elle a petit à petit étendu son action dans le monde entier. Parallèlement à cela, est né au sein des Nations Unies, à la demande de leaders indigènes, un groupe de travail sur les populations autochtones qui s'est donné pour mission d'élaborer une déclaration des droits des peuples autochtones sur le modèle de la déclaration des droits de l'homme, mais qui serait spécifique aux peuples autochtones. Et elle a mis quelques 10 ans à naître, et cette déclaration a été votée par l'ensemble des États membres des Nations Unies en 2006. Et donc, notre organisation a parallèlement donc a lutté pour les droits de ces gens et s'est rendu compte, on se rend compte depuis une vingtaine d'années, qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant sont très bien organisés, ont des associations politiques, savent se défendre devant les grands forums internationaux, et on concentre aujourd'hui notre action sur des peuples qui n'ont absolument pas les moyens de se défendre, c'est-à-dire des gens qui vivent encore dans l'isolement. On considère qu'il y a à peu près, il y a plus d'une centaine de peuples qui vivent dans l'isolement, mais dans un isolement volontaire, c'est-à-dire c'est pas des gens qui n'ont jamais vu la civilisation ou l'homme blanc, mais c'est des gens qui ont vécu par le passé des massacres et qui ont choisi de s'isoler. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc, on défend vraiment ces peuples, notamment au Brésil, en Papouasie, en Inde, au Pérou. Et voilà.
La photographie, comment est-elle un moyen pour sensibiliser ou alerter l'opinion publique?
Alors, on utilise beaucoup la photographie et les films. C'est très, très important. C'est un moyen extrêmement efficace parce que c'est l'image raconte tout en très peu de mots, si j'ose dire. Et on utilise énormément la photographie et beaucoup de grands photographes se sont associés à notre cause, genre Salgado ou Raymond Depardon. Nous aident énormément avec leur œuvre.
Et vous êtes également à l'origine de la revue Ethnie. Très belle revue.
Oui, vous la connaissez. C'est une revue que j'ai créée avec un ami, Bruce Albert, il y a 25 ans maintenant, et qui malheureusement s'arrête avec mon départ prochain à la retraite de l'organisation. Et c'était une revue qui était justement, il y a 25 ans, c'était rare, voulait donner la parole aux intéressés et ainsi qu'à des experts pour essayer de trouver des solutions à leur situation qui à l'époque était assez dramatique.
En 2009, on a un groupe français qui a entrepris la construction d'un des plus grands barrages du monde au Brésil, le barrage de Jirau. Il menace la biodiversité et la diversité sociologique de la région, mais également des communautés riveraines, d'autres populations vivant dans la région du bassin de Madeira. Pouvez-vous nous parler de ce combat sur lequel vous avez agi et sur lequel vous agissez?
Oui, c'est un combat sur lequel nous agissons. Mais c'est un combat qui est perdu d'avance parce que les intérêts économiques sont beaucoup plus importants que l'intérêt d'une poignée de gens. Une poignée de gens qui sont quand même des milliers de gens qui vont être déplacés, qui vont devoir vivre dans des territoires qu'ils ne connaissent pas, beaucoup moins importants que ceux qu'ils avaient auparavant. Les barrages vont inonder des zones entières, donc la biodiversité de la région qui est extrêmement riche va être complètement détruite. Et nous avons avec d'autres organisations de environnementales, de défense des rivières nord-américaines et surtout anglo-saxonnes, combattu ce projet, mais aujourd'hui le projet est tellement avancé qu'il est impossible de l'arrêter. Et on essaye actuellement de faire en sorte que les compagnies de construction de ce barrage respectent les droits des gens qui sont concernés par la construction de ces barrages.
Et en Éthiopie aussi, on a la construction d'un barrage sur la rivière Omo qui pourrait menacer là une famine généralisée pour un demi-million d'autochtones.
Qui va assécher parce que les riverains de la rivière Omo utilisent les crues naturelles de la région pour leur agriculture et pour l'élevage. Or, ce barrage va inonder toute la région et tout le système agroéconomique des riverains, qui sont près d'un demi-million, va être complètement foutu en l'air. Et donc, on va réellement assister à une très grande famine. Mais là, non plus, il n'y a pas grand-chose à faire. Le barrage est extrêmement avancé. Et on ne peut pas lutter contre de si grands intérêts économiques.
Au niveau de la fracturation hydraulique, on a aussi la mise en valeur des Bushman au sud du Botswana qui sont touchés par ces licences d'exploration qui se développent.
Oui, ce que je voulais vous dire avant de parler de la fracturation hydraulique, c'est que nous avons réussi coalition d'organisations, a arrêté un de ces grands barrages en Inde, par exemple, celui de la Narmada, l'un de ceux de la Narmada, qui a été une très grande victoire pour les gens, pour les riverains. Il arrive qu'on gagne des batailles, hein, toutes les batailles que nous menons ne sont pas perdues. Et les Bushmen du Botswana sont l'un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs d'Afrique australe, vivaient en paix très tranquillement dans le désert du Kalahari, vivaient de chasse, de cueillette, etc. Et on les a expulsés à partir de la fin des années 90, sous prétexte que ils dérangeaient la faune locale. Et finalement, on s'est aperçu qu'on y avait découvert dans cette région d'énormes gisements de diamants. Et je pense que c'est l'un des principaux et des plus grands gisements de diamants du monde. Et donc, c'était vraiment la vraie raison, c'était l'expulsion des Bushmen était vraiment due à la présence des diamants. Et aujourd'hui, les Bushmen ont intenté un procès contre le gouvernement pour pouvoir rester chez eux. Ils l'ont gagné, mais très très peu de Bushmen ont réussi à rester dans la réserve. Et même s'ils y restent, ils n'ont pas de permis de chasse, ils ont une liberté extrêmement restreinte. Alors que le président du Botswana, Ian Khama, qui fait partie du conseil d'administration d'une grande organisation de protection de l'environnement, permet la fracturation hydraulique dans cette même région, permet la présence de mines de diamants et surtout du tourisme à safari, c'est-à-dire qu'il empêche les gens, les bushmen de chasser, de pratiquer une chasse de subsistance, pendant qu'il permet à des chasseurs de safari de tuer des antilopes ou de pratiquer une chasse au trophée, si vous voulez. Et donc c'est une situation qui est complètement totalement unique, et c'est ce qui nous a amené à lancer une campagne de boycott du tourisme au Botswana tant que les Bushmen ne seront pas libres de vivre comme ils l'entendent sur leur territoire ancestral.
Alors, on parle assez peu également des peuples autochtones européens, voire même russes, qui sont pourtant assez proches. On peut parler notamment des Samis qui vivent en Laponie ou des Nénets en Sibérie. Comment, justement, peut-on expliquer ce manque d'information par rapport à ces peuples européens et russes?
Les Samis, il y a pas mal d'informations sur eux. Ils sont extrêmement bien organisés. Il y a un parlement Sami. Ils sont extrêmement bien représentés, bien que ils ont énormément de problèmes actuellement, justement, avec des mines qui s'installent sur leur territoire. Quant au peuple de Sibérie, ce qu'on a longtemps appelé les petits peuples de Sibérie, qui ont été complètement oubliés par le communisme et qui les a extrêmement maltraités, puisque on a supprimé leurs chamans, on leur a interdit de parler leur langue, etc. Aujourd'hui, les Nénès, les Ranti, les Mansi, les Tchouch, tous ces petits peuples vivent extrêmement mal. Leur territoire est rempli de puits pétroliers et ils vivent une pollution dramatique, et non seulement une pollution, mais on constate une perte de leur tradition, de leur langue, etc. Et effectivement, pendant très très longtemps, on n'a pas parlé de ces gens parce qu'ils étaient dans le bloc communiste. Aujourd'hui, on commence un petit peu à en parler. C'est un peu comme les peuples indigènes minoritaires qui vivent en Chine, on a extrêmement peu d'informations sur eux. Il est presque impossible de se rendre chez eux. Il y a très très peu de gens qui connaissent réellement leur situation.
Alors justement, comment peut-on lutter contre l'appropriation des terres par les industriels et donc justement lutter contre la suppression des langues, de la culture des peuples de sibériens?
C'est très compliqué. Juste en fait à la fin du communisme en Russie, la Russie est devenue Russie. Je suis allé en Sibérie à une conférence qui était organisée par la principale entreprise d'exploitation de gaz et de pétrole en Sibérie, qui voulait se donner bonne conscience et avait organisé une conférence avec les petits peuples qui étaient envahis par les concessions pétrolières et des organisations internationales dont nous faisions partie pour essayer de trouver une solution au problème qu'ils posaient aux peuples locaux. Et en fait, c'était de la poudre aux yeux. On nous a L'entreprise a promis qu'elle prendrait des précautions, etc., mais rien ne s'est passé. Les petits peuples sont toujours aussi maltraités par ces compagnies qu'auparavant. Et en fait, il y a très peu de choses à faire. Il y a des lois internationales. La déclaration des droits des peuples autochtones n'est pas un instrument juridique contraignant, donc on a beau la signer, la voter, la ratifier, on peut la bafouer comme on veut, mais il y a une autre législation internationale qui est la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui est un instrument contraignant. Une fois ratifié par un État, l'État doit des comptes devant les Nations Unies et doit la respecter. Et parmi les clauses que contient cette convention internationale figure celle du libre consentement des peuples devant une entreprise qui pourrait exploiter leur territoire. C'est-à-dire que toute entreprise doit demander au peuple concerner leur consentement libre et éclairé sur ce qui va se passer sur leur territoire. Et donc les entreprises sont contraintes de faire cette demande. Même si c'est fait, c'est très très peu respecté. Et en fait, nous, notre organisation s'emploie à faire respecter cette législation internationale qui est souvent, qui a été ratifiée par une vingtaine de gouvernements, qui a été même inclus dans des constitutions, par exemple dans celle du Brésil, dans celle de la Colombie. Beaucoup de gouvernements latino-américains l'ont ratifiée, très très peu de gouvernements européens l'ont ratifiée. Je crois que le Danemark et l'Espagne l'ont ratifiée et la France refuse de la ratifier au nom de l'indivisibilité de la constitution du peuple français. Et bien que nous ayons des autochtones sur notre territoire, par exemple en Guyane et en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti. Et donc, notre organisation s'emploie à ce que les entreprises reconnaissent le droit des peuples à décider eux-mêmes de ce qui peut se passer sur leur territoire.
Nous allons diffuser de la musique Hopi. Pouvez-vous nous présenter le travail de Philippe Glass? Comment a été réalisé cela?
En fait, on ne sait pas trop. Donc c'est moi qui ai choisi ce morceau. J'ai écouté sur le net les différents morceaux accessibles et j'ai sélectionné celui-là, mais je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Je suis désolée.
En tout cas, on va l'écouter avec plaisir. et ne pas aller piller les œuvres culturelles des autres, c'est à travers le respect. C'est à travers le respect. Et en toute modestie, on va diffuser de la musicopie pour pouvoir la diffuser sans faire de... sans la diffuser de façon énorme. C'est aussi quelquefois savoir conserver le bonheur sur RVBS. Voilà, vous êtes sur RVVS, que mieux un jingle pour faire une introduction, hein. C'est également ça, la beauté de la radio et des jingles, quand on en a, utilisons-les. La semaine de la solidarité internationale, c'est cette semaine. Noan, vous avez un stand, on peut vous retrouver sur la semaine.
Les vols sont d'ailleurs déjà présents sur le stand. On est place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement. Et on a un stand où on distribue en fait des fiches sur différentes tribus indiennes, les Mapuche, les Hopi, les Takenman et les Nisga. On distribue aussi nos brochures. On a fait un quiz aussi pour les enfants sur avec quelques questions très simples sur les fiches des Indiens, et on donne des bonbons, et puis il y aura à la fin deux petits cadeaux de parures d'Indiens pour les enfants. Voilà, c'est histoire d'éveiller un peu les consciences parisiennes sur l'importance de certains biens pour les Indiens.
Et Survival s'est associé à l'AADH, donc on est aussi présent place Saint-Sulpice. Et si peut-être que je pourrais donner le site, si des gens veulent en savoir un peu plus sur notre organisation, on a un site qui est très bien fourni, qui donne beaucoup d'informations, c'est survivalfrancetoutattaché.org.
Voilà, tout à fait. C'est la question que j'allais vous poser. Donc, les moyens de communication de vos deux associations et alliances, donc les sites internet. Est-ce que vous avez une page Facebook également ?
Oui.
Oui. Alliance des avocats pour les droits de l'homme.
Et Survival France.
Merci beaucoup. Merci pour cette interview. Et rappelons le combat est loin d'être gagné, loin d'être fini, mais protéger les biens culturels indiens, c'est respecter la culture des uns et des autres, et ça doit être un leitmotiv pour tout le monde, parce que respecter les uns et les autres, ça fait également partie des combats qui ne s'octroient pas en un jour, mais sur toute une durée. Et ça, vous savez que c'est essentiel en tant qu'auditeur de RVVS, en tant qu'auditeur de Reportage VIP. On essaie de vous sensibiliser à cela, que le respect, ça passe par un combat permanent, et c'est également cela qu'on va pouvoir écouter dans RVVS, sur RVVS, une émission de semaine. Puisque...
Alors, une émission en semaine, vous pouvez écouter du lundi au vendredi, Vexin Douceur, à partir de minuit.
Voilà, Vexin Douceur, et puis en week-end, à partir de 14h, vous savez que vous avez Route des Hommes sur l'antenne de RVVS, et Route des Hommes. Cette semaine, Route des Hommes vous invite à un voyage au pays des couleurs. Voilà, comme quoi l'évasion permet ensuite de pouvoir agrémenter votre week-end. Puis, deuxième rendez-vous du week-end, enfin vous en avez même plusieurs, mais le deuxième grand rendez-vous du samedi à partir de 15h à l'occasion du festival des mots et des notes qui débute ce week-end. La rédaction de RVVS se déplace à la médiathèque des Mureaux pour une émission consacrée au festival. Puis, à partir de 16h, Robert Congo reçoit le docteur Michel Courteau, attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Il évoque la maladie d'Ebola et la rediffusion aura lieu, elle, en semaine, le mardi 25 novembre 2014.
Voilà, on remercie une nouvelle fois Noan Tennesson et Jean-Patrick Razon qui représentaient l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme et Survival International France.
Wes, les rendez-vous sur RVPB ?
Bah alors là, j'aurais pas le temps de dire tous les rendez-vous, mais vous pouvez nous joindre sur www.vipradioonline.fr. Et ce soir, nous avons la chronique de Muriel à partir de 21h.
Et on se retrouve demain matin à Motolégende.
Exactement. Bon, au revoir.
Au revoir et à la semaine prochaine sur RVVS.